dans Grain de Beauté ce matin, nous allons parler d'hypnothérapie comme tous les mois en compagnie de Cynthia Nabé. Bonjour Cynthia.
Bonjour Léa.
Cynthia, vous êtes hypnothérapeute, c'est comme ça que l'on dit, et vous consultez des gens pour différents types de problématiques. C'est vraiment des domaines d'application très très variés, c'est la vie.
Exactement.
C'est un peu tous les problèmes que l'on rencontre au quotidien, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. L'hypnothérapeute est là pour aider d'une certaine manière. Laquelle ?
Alors, l'hypnothérapeute est là pour accompagner, déjà pour écouter, premièrement, et puis aider la personne à définir son objectif. Et ensuite, parce que parfois on a des demandes, des personnes qui arrivent avec des demandes, et en fait, en creusant un petit peu et en posant quelques questions, on s'aperçoit, et même on aide la personne à prendre conscience, que son réel objectif, ce n'est pas forcément celui qu'elle annonçait, et qu'il y a quelque chose de plus grand derrière cet objectif-là. Mmh. Et c'est aussi le rôle du thérapeute, enfin pas seulement de l'hypnothérapeute d'ailleurs, c'est aussi le rôle du thérapeute, du coach, de l'accompagnant, d'aider la personne à définir vraiment son objectif de manière à ce qu'il y ait une réelle motivation derrière. C'est comme ça qu'on lève la fameuse motivation qui va être importante.
Ça signifie que l'objectif n'est pas si clair, il n'est pas si net. C'est-à-dire que pour les gens qui viennent, on peut se tromper. On ressent un mal-être au départ. C'est ce qui nous fait faire la démarche de venir vous voir, mais on ne sait pas toujours pourquoi.
On ne sait pas toujours pourquoi on vient voir la personne. En tout cas, pas forcément les raisons profondes ou pas forcément les causes profondes. C'est-à-dire que parfois, une personne, elle vient, tiens, pour arrêter de fumer ou peut perdre du poids, elle ne sait même pas quand est-ce qu'elle a commencé à fumer ou quand est-ce qu'elle a commencé à prendre du poids. Hier, je recevais une dame qui est venue pour arrêter de fumer et en fait, en lui posant quelques questions sur son histoire de vie finalement, elle a commencé, parce que c'est une question que je pose tout le temps, comment vous avez commencé à fumer ? Alors dans 90% des cas, pour faire comme les copains, à la fac, au lycée et tout. Eh bien non, cette dame en fait, elle avait commencé à fumer parce qu'elle avait perdu un enfant. Et elle avait un enfant mort-né, malheureusement, ça, ce sont des choses qui arrivent. Et en fait, elle a commencé à fumer à ce moment-là. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que je l'ai aidée à faire le deuil de ce bébé, lequel d'ailleurs n'avait jamais fait, finalement.
Et ce deuil aidera cette dame
à arrêter de fumer, puisque la cause profonde de la raison pour laquelle elle s'est mise à fumer, elle est éliminée. Maintenant, elle va pouvoir commencer sa vie.
Alors là, on est dans des cas qui sont un petit peu flous, mais parfois, ce sont des cas très, très clairs. Par exemple, je prends l'exemple d'un enfant. Un enfant fait des cauchemars ou un enfant est un peu agité, même un peu beaucoup. Là, ce sont des j'imagine.
Alors là, je vous remercie de poser cette question-là.
C'est jamais clair, en fait.
Alors non, c'est génial parce que en fait c'est une longue conversation que j'avais sur Facebook dans un groupe dans lequel j'ai fait partie hier soir.
Ah bon, j'étais pas au courant.
Et alors vous me permettez justement de rebondir dessus. Coucou à tous mes amis Facebook avec qui j'avais la conversation hier soir, la discussion hier soir d'ailleurs. Pour les enfants, vous parliez des cauchemars. Il y a un certain âge, en fait, une période dans le développement de l'enfant où c'est normal de faire des cauchemars. Donc, globalement, entre l'âge de 7 et 10 ans, l'enfant se construit. Et les cauchemars, alors, c'est désagréable pour l'enfant. C'est pas forcément facile à gérer pour les parents parce que parfois, il peut y avoir des réveils intempestifs, nocturnes. Et là, papa, maman doivent gérer. La seule chose, c'est faire parler l'enfant, le rassurer. Alors souvent à cet âge-là, ils ont ce qu'on appelle des rêves, rêves d'intrusion en fait. Que j'ai rêvé que il y avait un méchant qui rentre dans la maison, qui tue tout le monde. En fait, c'est complètement normal. Ça fait partie du développement de l'enfant. Je n'ai pas développé ici. Ça fera peut-être l'objet d'un autre sujet. Voilà. Donc ça, c'est normal. Maintenant, un enfant un peu agité. Alors, l'hypnose, comment elle va pouvoir aider sur le sommeil là-dessus, juste accompagner, quoi, juste apaiser l'enfant.
Ma question, c'était de savoir s'il y avait des causes simples, est-ce qu'il y avait des cas simples qu'il y a toujours à creuser très loin et donc une introspection
dans
la personne.
Non, pas forcément.
Personne.
Et puis de toute façon, l'introspection en hypnothérapie, elle n'est jamais très très longue. C'est plus, en réalité, c'est plus l'hypnothérapeute qui va savoir poser les bonnes questions et l'introspection, elle va durer maximum comme une séance. Donc, on ne part pas sur des... On est sur du travail de fond. Attention, on est sur du travail de fond. Sauf qu'on n'est pas sur la même démarche qu'une thérapie analytique. D'accord ? Donc là, on est sur de la thérapie brève, voire ultra brève.
On reste en surface. Non. Est-ce qu'on reste en surface ?
Sûrement pas. Non. On va même bien plus profondément. D'accord. Parce qu'on va atteindre le côté émotionnel de la personne grâce à l'hypnose. Mais on n'est pas du tout en surface. En revanche, le côté analytique, on ne va pas laisser la personne se débattre toute seule dans son analyse et dans ses associations d'idées. On va lui montrer le chemin. On va faire un peu le guide. On va lui montrer le chemin. On va lui dire, attendez... moi, je pense que, voilà, vous me dites que vous avez commencé à fumer à telle période, et puis là, trois petits points de suspension. Et la personne, elle se dit, ah oui, effectivement, ça correspond à la période où ça n'allait pas bien dans ma vie. D'accord. Eh ben voilà. Donc, la prise de conscience, elle est faite. On va l'aider à prendre conscience rapidement. Une fois qu'on a atteint ce point-là, après, on passe au travail thérapeutique. On ne va pas analyser, se poser des questions pendant des années et des années. C'est inutile pour le travail qu'on a à faire.
C'est une thérapie assez à court terme, à moyen terme, on va dire. Au court et moyen terme, c'est-à-dire ça peut prendre une année.
C'est une thérapie qui dure peu de temps, mais dont les effets sont à très long terme.
D'accord. Voilà. C'est presque définitif, on peut peut-être dire ça, mais en tout cas...
Alors, Dieu merci, ça ne l'est pas, parce que définitif, ça voudrait dire... Ça n'est définitif qu'à personne, que si la personne, elle finit par décéder. C'est pas le cas. Bon. Donc, il n'y a pas de définitif là-dedans.
Non.
Mais disons que c'est du... c'est du solide. Voilà.
D'accord.
On travaille de manière très solide. Après, effectivement, il y a certainement besoin, il y aura certainement besoin, 1 an, 2 ans, 3 ans après, peut-être, de revenir dessus. Mais tout simplement parce que la personne, elle aura évolué. Donc, elle aura une autre perception de sa vie, une autre perception de son histoire, une autre perception. Puis, il se sera passé quelque chose dans sa vie.
Elle partira d'un autre niveau. D'un
exactement.
Autre niveau, hein, c'est ça.
Exactement.
Donc, un autre niveau d'analyse. Et puis, le travail de l'hypnothérapie la touche et elle le comprend bien, elle peut aussi, peut-être, parfois, elle-même. C'est un travail, j'imagine.
Alors, on peut faire de l'auto-hypnose aussi, tout à fait. Ouais. On peut travailler en auto-hypnose.
Est-ce qu'il y a des... Puisque vous consultez beaucoup de gens, est-ce qu'il y a des domaines d'application qui sont courants et qui reviennent très, très souvent
Oui, alors l'arrêt du tabac, c'est assez classique. Oui. La confiance en soi, très classique. La perte de poids aussi, très courant. Moi, j'aime bien accompagner les jeunes pour la préparation des examens. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai été enseignante dans le supérieur pendant plusieurs années.
Ce sont des sujets très, très concrets, Cynthia. Ça m'étonne.
C'est très concret.
Par exemple, des problèmes relationnels. Est-ce que ça peut se régler
aussi ? Je vois des couples aussi. Il m'arrive de voir des couples aussi.
Et l'hypnothérapie.
Et l'hypnothérapie aussi. Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on voit un couple, on voit le couple une première séance ensemble. On valide qu'ils veulent... continuer d'avoir un avenir commun. Et puis après, on voit le mari et la femme séparément. Ou d'ailleurs, parfois, c'est pas le mari et la femme. Ça peut ne pas être un couple classique.
Oui, bien sûr.
Voilà. Ça m'est arrivé plus d'une fois.
Oui.
Et puis on voit les partenaires chacun de leur côté. Et ils font un travail avec lesquels je fais un travail d'hypnothérapie et de soigner les blessures de chacun. Parce que si ça ne va pas, c'est parce que de chaque côté, on appuie sur les blessures de l'autre. Voilà. Et après, on consolide, on finit le travail.
S'il y a au départ la volonté.
Voilà.
Exactement. Alors, pour cette émission, pour ce nouveau numéro, nous allons parler de la gestion du poids. On est à une période où très souvent, après les fêtes, on est un mois après les fêtes, les femmes très souvent, les hommes aussi, ont pris
quelques kilos. J'ai de plus en plus d'hommes avec ces demandes-là.
Ouais. Alors ça, c'est intéressant de le savoir.
Pour des raisons de santé déjà, parce que contrairement aux femmes qui sont, alors c'est mon médecin qui m'a appris ce terme, qui sont plutôt gynoïdes, c'est-à-dire qui prennent le poids au niveau de la culotte de cheval, en tout cas dans le bas du corps. Et c'est ce qu'un ami à moi appelle ça la graisse à bébé. Donc on n'a plus besoin une fois qu'on a fini de faire les bébés, dont on aimerait bien se débarrasser. C'est ce qui sert en fait à allaiter le bébé et à donner la force au lait de maman. Donc une fois que chez les femmes, en fait, ça se situe à ce niveau-là. C'est pas dangereux fondamentalement pour la santé. C'est fatigant, c'est inesthétique, mais c'est pas particulièrement dangereux pour la santé. En revanche, quand le poids il se met au niveau du ventre, là, ça commence à devenir dangereux pour la santé. Et mmh. c'est le cas de la plupart des hommes. Les mmh. hommes, ils n'ont pas la culotte de cheval. Nous ne sommes pas égaux devant la nature. Mmh. Et ils n'ont pas la culotte de cheval. Ils prennent tout dans le ventre. Et là, ça devient. Il y a une question de santé.
Et là, il y a une prise de conscience oui. chez les hommes dernièrement.
Oui, oui, il y a une vraie prise de conscience parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai quasiment autant d'hommes que de femmes qui viennent me voir mmh. pour cette question-là de gestion du poids.
Alors, ma question là-dessus, quand quelqu'un vient vous voir pour gérer son poids, très souvent, c'est pour perdre quelques kilos. Est-ce que c'est toujours la même démarche
alors,
de votre
excusez-moi
côté
de vous couper.
Oui.
Mais non, malheureusement, c'est pas seulement pour perdre du poids.
Oui.
Mais parfois, c'est pour en prendre parce que je reçois ah. aussi des personnes, des jeunes femmes mmh. qui ont des troubles du comportement alimentaire, notamment des jeunes femmes anorexiques. Mmh. Et là, c'est plutôt pour en prendre, ou en tout cas pour arrêter d'avoir un comportement alimentaire inadapté.
Alors, on va s'intéresser à ce problème dans ce domaine. C'est vrai qu'en majorité, vous en conviendrez peut-être que ce sont quand même les personnes qui veulent perdre un peu
oui.
de poids. Hein. Alors, dans ce cas-là, est-ce que votre démarche, c'est toujours la même avec toutes les personnes? Est-ce qu'il y a à peu près le même profil de femmes et puis le même profil d'hommes?
Non, absolument pas. Déjà, je pose systématiquement la question... Comment vous avez commencé à prendre du poids? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Parce que la nature est extrêmement bien faite, le corps est une machine extraordinaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas une machine. Au final, on s'aperçoit que ce n'en est pas une. Mmh. Mais c'est une mécanique. Voilà, le mot est plus juste. C'est une mécanique extrêmement bien faite. Normalement, le corps est fait pour réguler la nourriture. Tout ce qu'on ingère est censé être digéré. Si on prend du poids, c'est que ça n'est pas digéré. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a bugué dans le programme? Et en fait, on s'aperçoit que si, en posant, tout simplement en discutant avec la personne, que quand la personne a pris du poids, alors il y a différentes origines. Parfois, malheureusement, il y a eu un traitement médical qui a nécessité la prise de médicaments. La personne, souvent, la prise de cortisone génère des prises de poids. Alors, ce n'est pas la cortisone qui génère la prise de poids, c'est la cortisone qui génère des dérèglements dans le corps mm-hmm. qui font que le corps réagit. Et en fait, dans ces cas-là, j'ai envie de dire, quand on prend du poids, c'est quand même le signe qu'on a un très bon instinct de survie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je tiens à rassurer pour être... Alors, à la radio, on ne me voit pas. Je suis quelqu'un de plutôt rond à la base. Et un jour, un médecin m'a dit, mais bonne nouvelle, vous avez un très bon instinct de survie. Je lui ai dit, mais docteur, j'aimerais bien arrêter d'avoir un instinct de survie. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on prend du poids? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? C'est que le corps... réduit les dépenses et fait des stocks. Mmh. Il fait des économies exactement comme on ferait en période de pénurie. On réduit les dépenses et puis on fait des stocks, on fait des économies mmh. en attendant que ça se calme. Ouais. Le corps fait exactement la même chose qu'en période de
que pénurie économique. Quand on gère
son budget financier, le corps procède exactement de la même façon. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quelle est la crise actuelle qui fait que, ou quelle a été la crise à un moment donné qui a fait que mon corps a dû réduire les dépenses et faire des stocks? Ça, c'est la première chose. Donc, bonne nouvelle, vous avez un bon instinct de survie. Oui. Magnifique.
Dès lors qu'on grossit, on
exactement.
Se protège.
Alors, autre chose qu'il faut savoir, l'inconscient a de l'inertie. C'est-à-dire qu'il ne fait que ce qu'on lui demande. Donc, il a trouvé à un moment donné ce moyen-là pour gérer la survie. Donc, il prend du poids, il baisse les dépenses, il réduit les stocks. Donc, le métabolisme baisse. Donc, on brûle moins de calories. Et en plus de ça, il fait des stocks. On stocke les calories, les graisses. Mm-hmm. Magnifique. On est content comme ça. et puis après, ce qui se passe, c'est que une fois qu'il a trouvé ce moyen-là de gérer la situation, mm-hmm. très bien, ça se gère. On continue comme ça. Si on ne dit pas à l'inconscient, « Allô ?» ça y est, la crise est passée, il faut t'arrêter, et ben, il continue. Exactement comme quand vous êtes assis sur un muret, puis que vous commencez à balancer les jambes, à un moment donné, vous balancez les jambes consciemment, puis à un moment donné, vous pourriez rester des heures comme ça à balancer les jambes, vous n'avez plus conscience, ça devient automatique, vos jambes se balancent. Si à un moment donné, vous ne dites pas « Ah bah tiens, il faut que j'arrête de baisser, de balancer les jambes », vos jambes, elles continuent de se balancer.
C'est pour ça que vous dites que l'inconscient
a de l'inertie. Il continue de faire ce qu'il a fait.
De la mémoire aussi, j'imagine.
Alors, pas exactement. C'est plutôt des automatismes. Si l'automatisme, la solution convient, il la garde. Et puis, c'est ce qui fait qu'on peut, par exemple, si un jour, je sais pas moi, un enfant qui suce son pouce, si on lui dit pas « Arrête de sucer ton pouce », il peut sucer son pouce sous ta vie.
Alors, qu'est-ce qui fait, Cynthia, que l'inconscient a cette inertie, il continue à fonctionner? Qu'est-ce qui fait que les femmes, en général, ont vraiment cette volonté de perdre? Elles souffrent d'avoir des kilos en trop. Elles ont cette volonté, malgré la volonté consciente. Eh bien, le corps n'a pas cette information. Ça coince, ça ne passe pas.
Parce que, en général, le blocage est émotionnel. Il s'est passé quelque chose au niveau émotionnel et que le conscient n'a absolument aucun impact sur l'émotion. Mmh. Aucun. C'est un processus complètement automatique dans le cerveau.
Oui, très souvent on dit que on peut faire des tas et des tas de régimes quand on n'a pas pris réellement la
pas
décision.
Faire de régime.
Voilà. Donc on peut tenter tous ces régimes quand on n'a pas la réelle volonté, en tout cas profonde.
La seule chose que vous allez, la seule chose que vous faites quand si vous n'avez pas soigné la partie émotionnelle, la seule chose que vous allez faire en faisant un régime, c'est mettre votre corps en pénurie. Le message que vous envoyez à l'inconscient, c'est la famine. Or, l'inconscient, lui, va réagir de manière très archaïque. C'est la famine, je réduis les dépenses et je fais des stocks.
Et puis, je bloque.
Ah non, je réduis les dépenses et je fais des stocks. Mais donc, la moindre chose que j'ingère, elle va être stockée.
Donc, on ne perd pas.
Voilà.
Donc là, c'est vraiment le cœur du problème et tous les nutritionnistes nous le disent, on revient toujours à ça. On peut avoir autant de protocoles, de protocoles de entre guillemets régime ou de nutrition saine, il y a toujours ce problème d'émotion.
Maigrir, perdre du poids, retrouver son poids de forme, c'est dans la tête, c'est pas dans l'assiette.
D'accord, c'est bien dit.
C'est dans la tête, c'est pas dans l'assiette.
Alors, bon, c'est dans la tête,
on va pas manger n'importe quoi non plus. Mm-hmm. Il faut avoir une alimentation saine. Si à partir du moment où j'ai une alimentation saine, d'accord, c'est-à-dire une alimentation variée qui me convient et tous les aliments ne me conviennent pas forcément et parfois il y a des aliments par exemple, je sais pas moi, il y a certaines viandes qui ne me conviennent pas. Ceci étant, les nutritionnistes s'accordent à dire que aujourd'hui la viande c'est pas forcément très bon pour la santé. Alors pas la viande à proprement parler, tout simplement parce que avec tous les produits de l'agriculture intensive, c'est pas terrible pour l'organisme. Donc manger sainement, si à partir du moment où j'ai une alimentation saine, mon corps n'arrive pas à se réguler et n'arrive pas à retrouver son poids de forme, c'est que c'est dans la tête. Mmh. Et dans ces cas-là, on peut très bien prendre du poids alors même qu'on mange comme un enfant. Mmh. Et là, je témoigne, parce que ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de manger les mêmes portions que mes enfants et pour autant, le lendemain, sur la balance, en avoir la balance qui monte.
C'est qu'il y a quelque chose de plus.
Oui, parce que dans la journée, ça avait été pas terrible la journée d'avant.
Alors, je vous propose de nous séparer quelques instants et on va s'intéresser à ce problème-là, plus précisément de l'émotion pour gérer son poids. On se retrouve dans la seconde partie de Grain de Beauté. Ce matin, dans Grain de Beauté, nous parlons d'hypnothérapie. Et le thème de cette émission, c'est la gestion du poids en compagnie de Cynthia Nabé. Cynthia, votre numéro de téléphone pour toutes celles et ceux qui nous écoutent depuis tout à l'heure.
06 98 32 46 68.
68, on va répéter, 06 98 32 46 68. Cynthia, on parle de cette gestion du poids et vous avez bien expliqué que ça se situe souvent et peut-être la majorité du temps au niveau de l'émotion.
Qu'est-ce qui fait, alors, je reprends ce que je disais juste avant la pause, Le corps est très bien fait, ce qui veut dire que normalement, je suis censée manger quand j'ai faim, dormir quand j'ai sommeil, arrêter de manger quand je suis rassasiée et puis me réveiller quand je suis reposée.
Mmh. Alors qu'est-ce qui fait qu'on le fait pas ?
Et qu'est-ce qui fait qu'on le fait pas ? Eh bien oui, alors déjà, il faut remonter un petit peu dans le temps. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de pénuries pendant la guerre, pendant cette guerre-là. Et les Américains sont arrivés avec tous leurs produits de grande consommation, faciles à consommer, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, eh ben, on a commencé à faire, par exemple, 3 repas par jour. Mais 3 repas par jour, dans les campagnes, à l'époque, parce qu'il faut, en 45-50, le pays est encore majoritairement rural, dans les campagnes, on faisait pas forcément 3 repas par jour. Mmh. On allait le matin, avant de partir au champ, eh ben, on mangeait bien solide, etc. On cassait la croûte rapidement dans la matinée, et puis le soir, on mangeait une soupe.
Oui.
Voilà. Sauf que, ou pas d'ailleurs, une soupe, ou pas, ou un fruit, ou quelque chose de léger pour arriver à passer la nuit. Après la guerre, vu les restrictions, on a commencé à manger 3 repas par jour, 3 repas par jour copieux, avec entrée, plat, dessert. L'alimentation a changé et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir
à grossir
et avoir des gens en surpoids.
Et la qualité alimentaire aussi.
Alors ça compte énormément. C'est pour ça que si vous avez, quand vous avez la possibilité d'aller acheter vos fruits et légumes chez le maraîcher, chez le producteur directement, bah faites-le. C'est toujours mieux parce que au moins vous savez ce que vous mangez.
Mmh. Alors revenons à l'émotion.
Chacun fait comme il peut et comme il veut ça.
Alors revenons un petit peu au sujet de l'émotion. Est-ce que finalement la clé de tout ça, ça n'est pas d'écouter son corps ?
Oui, je vais vous dire absolument oui, 1000 fois oui. Mmh. Il y a certains aliments que je vais supporter, d'autres que je ne vais pas supporter, d'autres que tout simplement je n'aime pas. Mmh. En goûtant plusieurs fois, tout simplement, quand vous mastiquez un aliment et qu'il est réduit en bouillie dans votre bouche, si après mastication, eh bien, le goût de ce que vous avez dans la bouche, eh bien, vous ne l'aimez pas, c'est qu'il y a de grandes chances pour que cet aliment-là ne soit pas bon pour vous. On garde bien à l'esprit que nous faisons partie du règne animal. Mmh. Un animal, quand vous le voyez choisir sa nourriture, il va la renifler, il va la regarder, il va tourner autour, il ne va pas se jeter sur n'importe quoi. Mmh. Donc, il est très important d'écouter son corps.
D'écouter son corps, d'être bienveillant avec son corps, avec soi-même.
Oui.
Et puis écouter ses émotions, voilà.
Oui, parce que parfois, alors, y a beaucoup de gens qui me disent « je mange mes émotions ». C'est exactement ça.
Ah ouais,
c'est-à-dire que je suis fatiguée, je vais ouvrir le placard à provision. J'ai une contrariété, je vais ouvrir le placard à provision. Exactement comme d'autres prendraient une cigarette d'ailleurs.
Oui.
Alors, il y en a, je leur dis « mais attendez, ça vous viendrait à l'idée de fumer un paquet de cigarettes par jour ? Ah ben non ! Oui, mais alors descendre la tablette de chocolat, oui. Ah oui, c'est aberrant ça. Oui, parce que, alors fumer, on sait que c'est mauvais, mais manger, on ne peut pas s'arrêter de manger. Il faut manger pour vivre, pour continuer d'être en bonne
santé. Et non vivre pour manger.
Et non vivre pour manger. Alors, on doit manger pour être en bonne santé. Que ce que tu manges soit ton premier médicament. Alors, je crois que je déforme la citation d'Hippocrate,
oui.
mais c'est Hippocrate, c'est l'idée. Mm-hmm. C'est-à-dire que ta nourriture soit ton seul médicament,
voilà.
Me semble-t-il.
Voilà. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai comment tu vas.
C'est à peu près ça. Et alors, on s'aperçoit vite que quand on mange léger le soir, finalement, on dort bien, ouais. On dort mieux et que le matin, on se réveille en ayant faim, bizarrement.
Mais souvent, là, ça fait plaisir aussi de se nourrir. Et c'est vrai que le sucre est souvent associé à un bien-être qu'on n'a pas dans la vie.
Et oui, alors, le sucre, c'est de la douceur. Mmh. Alors, si je m'aperçois que je suis addict au sucre, peut-être devrais-je me poser la question « Quelle est la douceur qu'il manque dans ma vie ?» et travailler là-dessus plutôt que d'aller travailler...
Dans
sur le frigo à provision.
D'accord. Donc là, le travail aussi dans l'hypnothérapie,
c'est
de se poser des questions sur soi-même. Qu'est-ce qui me fait plaisir en dehors de cette nourriture ?
Plaisir. Alors, vous venez de dire un mot très, très important. Mm-hmm. Le plaisir. S'il n'y a pas de notion de plaisir et de satisfaction à manger, je vais aller manger n'importe quoi. Donc, quand je me mets à table, mastiquer, savourer, et je vais manger ce qui me fait plaisir. Si j'ai du plaisir, je vais arrêter de me gaver et de me remplir.
Eh bien, on va rester sur cette notion de plaisir. C'est joli de terminer cette émission là-dessus. Je rappelle votre numéro de téléphone 06 98 32 46 68. Nous étions en compagnie de Cynthia Nabé, qui est hypnothérapeute. Et on vous retrouve tous les mois sur notre antenne,
Avec
Cynthia.
Plaisir, Léa.
Au revoir.
Au revoir.